Bonjour, le secrétaire général va vous parler de la dernière séance de travail de cette ministérielle et ensuite il répondra à vos questions, monsieur le secrétaire général.
Bonjour, nous venons de conclure une réunion très productive traitant de la projection de la stabilité au-delà des frontières de l'OTAN. L'OTAN agit dans ce sens depuis très longtemps et nous avons des compétences tout à fait uniques. Après des opérations en Afghanistan, dans les Balkans, construisant la capacité pour plus de 40 partenaires dans le monde et en travaillant au dialogue politique et à la coopération pratique. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés exigent de nous que nous fassions davantage. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui, comment renforcer nos efforts pour la projection de la stabilité au-delà de nos frontières. Et c'est également un élément des préparatifs pour le sommet de Varsovie où les chefs d'État et de gouvernement prendront des décisions sur la projection de la stabilité. Tout d'abord, l'Irak. Nous formons déjà des officiers irakiens en Jordanie. Le Premier ministre, M. Al-Abadi, a demandé d'étendre cette formation sur le territoire irakien. Une équipe de l'OTAN s'est rendue à Bagdad la semaine dernière pour voir comment nous pouvions ajouter de la valeur à cette formation. Et nous avons parlé de la suite sur la base du rapport de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons décidé de développer une recommandation pour la formation par l'OTAN et pour la construction des capacités en Irak. Notre but est de parvenir à un accord au sommet de Varsovie. Cela viendra compléter la formation des officiers irakiens que l'OTAN organise déjà en Jordanie. Deuxièmement, les AWACS. Nous avons envisagé de porter un soutien direct à la coalition contre l'État islamique sous la forme d'un appareil de surveillance AWACS. Nos autorités militaires ont été chargées de nous donner un avis. Troisièmement, le domaine maritime. Lors de notre dernière réunion des ministres de la Défense en février, nous avions décidé de déployer des unités en mer Égée pour aider la Grèce, la Turquie et l'Union européenne dans leurs efforts pour faire face à la crise migratoire et des réfugiés. Ce déploiement nous a permis de faire la différence et ce déploiement reste efficace. Nous travaillons également pour convertir notre opération Active Endeavour en une opération de sécurité maritime élargie. Elle comportera des tâches comme la connaissance de la situation, la lutte contre le terrorisme et la construction des capacités. Cela nous donnera une plateforme appropriée pour que l'OTAN joue éventuellement un rôle au centre de la Méditerranée. Et cela permettrait de soutenir l'opération Sophia de l'Union européenne en se fondant sur notre coopération réussie en mer Égée. Nos autorités militaires émettront bientôt des recommandations pour cela. Je salue l'adoption hier de la résolution des Nations Unies sur l'embargo des armes en Libye. Les autorités militaires de l'OTAN en tiendront compte lors de la communication de leur avis. Quatrièmement, nous continuons à travailler avec nos partenaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous soutenons la Tunisie dans ses efforts de construction des capacités dans des domaines tels que le contre-terrorisme, les opérations spéciales et la sécurité des frontières. Nous avons renforcé la participation de la Jordanie aux exercices de l'OTAN et nous travaillons avec nos partenaires jordaniens sur la cyberdéfense et la lutte contre les bombes déposées en bord de route. L'OTAN travaille beaucoup à projeter la stabilité en soutenant ses partenaires. Nous continuons à faire plus puisque lorsque nos voisins sont stables, notre sécurité est accrue. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Au sujet de l'Afghanistan, je me demande si vous pensez que l'OTAN est prête à maintenir la structure actuelle hub and spoke avec les bases. Et au sujet de la Méditerranée, je voudrais savoir si vous pensez que ce serait une bonne idée de déplacer des bâtiments de la mission en mer Égée pour assister la mission de l'UE, la mission Sophia.
Nous prendrons des décisions sur notre présence en Méditerranée lorsque nous aurons reçu l'avis des planificateurs militaires. Cela ne saurait tarder. Il est important de souligner que l'OTAN est déjà présente en Méditerranée. Nous avons l'opération Active Endeavour et nous sommes également présents en mer Égée. Et lorsque nous allons modifier notre mission Active Endeavour pour en faire une mission de sécurité élargie en Méditerranée, à ce moment-là, il sera plus facile de coordonner et d'évaluer les liens entre la mer Égée et le reste de la Méditerranée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous transformons cette mission Active Endeavour en mission de sécurité élargie. Et bien sûr, nous devons avoir une approche souple et pragmatique quant au déploiement des navires. Nous devons voir où ils peuvent apporter une valeur ajoutée, où on en a besoin au cours de la réunion d'aujourd'hui. Plusieurs alliés ont déclaré qu'ils étaient prêts à rester présents en mer Égée et à fournir des unités et des capacités pour une présence accrue en Méditerranée, y compris dans le centre de la Méditerranée. Et puisque maintenant il y a la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un élément important qui est en place pour que nous puissions agir davantage en Méditerranée. Le nombre exact de navires doit être évalué en permanence et nous devons les déployer là où on en a le plus besoin. Pour l'Afghanistan, ce que nous avons décidé, c'est que nous allons poursuivre notre mission Resolute Support. Nous aurons une approche régionale flexible, comme nous l'appelons, c'est-à-dire que nous resterons à Kaboul, mais que nous serons aussi présents dans les différentes régions. Maintenant, nous travaillons sur les décisions finales quant aux effectifs exacts en 2017. Cela sera décidé ultérieurement cette année. Mais nous resterons présents en Afghanistan, également dans les régions. Et nous continuerons à conseiller, former et à assister les forces afghanes, car nous tenons à continuer à soutenir les Afghans. Il est important aussi de souligner qu'au cours de la présente réunion, plusieurs pays ont déclaré qu'ils resteront présents, ils ont des forces, et ils se sont engagés à être présents en Afghanistan en 2017.
Kabul Times. Merci, Leila Mossali du Kabul Times. Monsieur le secrétaire général, comme vous le savez, il y a des combats le long de la frontière entre l'Afghanistan et l'Afghanistan. Que pensez-vous de ceci, de cette tension le long de nos frontières, car vous avez un partenariat stratégique aussi avec l'Afghanistan?
Ce qui est important maintenant, c'est de désamorcer les tensions entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et il faut éviter une escalade de la violence le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Je salue les efforts en cours visant à calmer la situation. Il faut établir le dialogue et il faut prévenir les combats à la frontière. La poursuite du dialogue et de la coopération entre l'Afghanistan et le Pakistan est essentielle. C'est important pour la sécurité de l'Afghanistan. C'est également important pour la stabilité de toute la région.
Le monsieur tout devant. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. J'aimerais vous poser une question sur les forces kurdes en Irak et en Syrie. Avez-vous l'intention de soutenir les forces kurdes en Irak et en Syrie, par exemple les forces Peshmerga, par exemple, qui sont en train de lutter contre l'État islamique?
L'important, c'est que la lutte contre l'État islamique. Autant soutient et assiste la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique sous bien des formes. Nous avons commencé à former des forces irakiennes. Les officiers sont en cours de formation en Jordanie. Nous venons de décider de continuer et nous prendrons une décision lors du sommet de Varsovie pour voir comment nous pouvons faire davantage pour former les forces irakiennes à l'intérieur du pays en renforçant leur capacité à lutter contre l'État islamique. Et bien sûr, nous soutenons aussi la Turquie, qui est l'allié le plus touché par la situation en Irak et en Syrie. Et de nombreux alliés apportent un soutien direct. Les alliés de l'OTAN font partie de la coalition dirigée par les États-Unis luttant contre l'État islamique. Et dans ce cadre, plusieurs alliés forment les Peshmerga en Irak. C'est une activité qui fait partie de la coalition menée par les États-Unis. Ce n'est pas dans un cadre OTAN, mais les alliés de l'OTAN apportent ce genre de soutien.
Kuna, je viens de la Kuwait News Agency. Quand vous dites que la décision sera prise au sujet du soutien à AWACS pour la coalition contre l'État islamique, quand est-ce que cette décision sera prise et comment pensez-vous de la situation en Syrie?
Bien sûr, nous avons abordé à toutes les instabilités, les violences et les perturbations en Irak, en Syrie et dans le Moyen-Orient en général. Et il a également été déclaré que l'Italie va maintenant déployer des batteries de SAMT en Turquie pour renforcer leur défense sol-air. Cela fait partie des mesures d'assurance de l'OTAN pour la Turquie. Nous avons déjà une batterie de Patriot espagnols sur place. Nous avons des avions AWACS en Turquie. Et il y a aussi d'autres mesures d'assurance qui permettent de faire face à certains des défis et des menaces découlant de la violence et des perturbations en Syrie. Quant aux avions AWACS, j'attends des chefs d'État et de gouvernement qu'ils prennent les décisions nécessaires. En juillet, lors du sommet, nous devons aussi faire du travail de planification militaire pour coordonner les demandes de la coalition et ce que l'OTAN peut offrir. C'est ce que nous faisons en ce moment. Je pense que nous serons prêts à prendre des décisions lors du sommet.
Agence France Presse. Monsieur le secrétaire général, au sujet de la cyberdéfense, certains pays ont des capacités offensives et j'aimerais savoir comment ceci sera cadré dans le cadre des efforts menés par l'OTAN dans le domaine opérationnel. Feront-ils appel à ces moyens?
L'OTAN, en tant qu'organisation, n'a pas et ne développe pas des capacités cyberoffensives. Ce que nous faisons, c'est que nous renforçons nos propres capacités pour défendre nos propres réseaux, nos propres systèmes, et nous aidons les pays à développer leurs propres capacités pour défendre leurs propres réseaux. Pour l'OTAN, il est important de pouvoir protéger nos propres réseaux ici au siège, mais aussi lors de missions et d'opérations. Il est extrêmement important que nous puissions défendre nos cyber-réseaux. Ce que nous avons fait, c'est que lors du sommet au Pays de Galles en 2014, nous avons décidé de bien préciser qu'une cyberattaque pouvait déclencher une réaction du type article 5. Une cyberattaque peut déclencher la défense collective de l'ensemble de l'Alliance, car nous considérons une cyberattaque comme quelque chose qui peut être aussi dévastateur qu'une attaque conventionnelle. Et aujourd'hui, nous avons encore franchi un pas, plutôt hier, c'est-à-dire que nous avons déclaré que le domaine cyber était un domaine opérationnel, avec les domaines opérationnels qui sont air, terre, mer et cyber, ce qui renforcera encore nos capacités cyber.
Rien aussi. Monsieur le secrétaire général, allez-vous avoir des consultations avec la Russie lorsque vous allez vous réunir au sein du Conseil OTAN-Russie la prochaine fois? Vous avez l'intention de renforcer votre présence avancée avec ces quatre bataillons?
Nous avons clairement déclaré que nous étions prêts à tenir une réunion du Conseil OTAN-Russie, même avant le sommet, mais nous sommes en consultation avec la Russie maintenant pour décider d'un ordre du jour, des modalités d'une telle réunion et pour décider d'une date. Nous y travaillons et nous sommes prêts à tenir une réunion. Nous pensons qu'une réunion OTAN-Russie est utile parce que c'est un cadre dans lequel nous pouvons nous informer et mettre à jour les informations que nous donnons à la Russie sur ce que nous faisons. Nous sommes transparents, prévisibles. La présence militaire de l'OTAN dans les pays baltes et en Pologne, telle que décidée lors de la présente réunion, est une présence défensive, elle est proportionnelle, est tout à fait conforme à nos obligations internationales. Nous pensons donc que c'est une bonne chose. Nous sommes transparents, nous nous informons, car cela peut réduire les risques de malentendus, d'erreurs de calcul. C'est encore plus important lorsque les tensions sont élevées, comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a des activités militaires, mais la transparence fait partie de l'ordre du jour d'une réunion du Conseil OTAN-Russie.
Monsieur le secrétaire général, quel est le résultat de la réunion du groupe de planification nucléaire? Est-ce que l'OTAN va revoir sa doctrine nucléaire?
Nous avons tenu une réunion du groupe des plans nucléaires hier et le but principal de la réunion était de veiller à ce que nous maintenions une dissuasion nucléaire sûre et sécurisée. L'OTAN reste une alliance nucléaire. Nous prenons une approche concrète et délibérée à l'égard de tous nos travaux dans ce domaine. Et je n'irai pas dans les détails, mais je peux dire que nous réexaminons constamment nos politiques et nos capacités, et ce de manière prudente et mesurée.
Est-ce que ceci veut dire que les discussions ont évolué? Est-ce que cela veut dire que vous avez reçu une réponse alors qu'auparavant ce n'était pas le cas?
Ils ont répondu aux appels téléphoniques et nous nous réunissons dans des salles de réunion. Nous dialoguons. Il y a eu aussi des réunions entre le secrétaire général délégué, M. Vashbaugh et l'ambassadeur Grushko, pour régler les détails de l'ordre du jour, les modalités et la date de la réunion. Et je pense que les deux parties souhaitent convoquer une réunion. Nous sommes en train de discuter de l'ordre du jour et de la date. Je pourrais vous donner davantage d'informations lorsque nous aurons décidé d'une date et d'un ordre du jour, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons jamais suspendu le Conseil OTAN-Russie. Nous avons organisé une réunion il y a quelques semaines. Nous avons parlé de l'Ukraine, des activités militaires, de la transparence, de la réduction des risques et de l'Afghanistan. Bien sûr, nous n'avons pas réglé tous les problèmes lors de la réunion, mais il est important de se réunir dans une même pièce, de présenter nos points de vue, et le débat a été franc et ouvert. C'est important, car je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait un dialogue plutôt que de ne pas parler, surtout à une période difficile comme celle-ci.
Est-ce qu'il y a des contacts entre militaires? Est-ce que Garasimov a répondu au téléphone?
Un des problèmes que nous aborderons, je l'espère, lors du Conseil OTAN-Russie, car on n'a pas encore décidé de l'ordre du jour, ce sera de voir comment développer la transparence, la prévisibilité, y compris avec des lignes de communication entre militaires. Je voudrais qu'il y ait une réunion du Conseil OTAN-Russie parce que c'est un cadre dans lequel nous pouvons discuter du renforcement des lignes de communication militaires.
Une dernière question. Merci. Philippe Renier du journal Le Soir. Pourriez-vous nous donner des informations sur le dîner de travail d'hier soir? Quelles sont les perspectives de coopération renforcée avec l'Union européenne? Quels sont les principes de base de ce rapprochement entre les deux organisations? Et vous avez déjà évoqué l'opération Sophia. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au sujet de cette coopération? Merci.
Le message. Hier soir, et le suivant, il y a une forte volonté au sein de l'OTAN. J'ai également rencontré Mme Mogherini, la représentante, pour renforcer la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Et cela sur la base d'une perception commune du fait que nous sommes confrontés à un environnement sécuritaire plus difficile avec des menaces contre les alliés de l'OTAN et les membres de l'Union. Ni l'OTAN, ni l'Union européenne ne possèdent tous les outils nécessaires pour réagir. Par exemple, lorsque vous pensez à notre réaction à la crise ukrainienne, l'Union européenne a appliqué des sanctions économiques, l'OTAN a apporté son plus grand renforcement à la défense collective depuis la guerre froide. Cela montre que nous devons travailler ensemble, en particulier lorsque les lignes sont de plus en plus floues entre la guerre, la paix, la guerre hybride et toutes ces nouvelles menaces. Cela renforce le besoin de coopération. L'OTAN dispose de certaines capacités, l'Union européenne en a d'autres. Elle se chevauche en partie et est donc essentiel de coopérer et de coordonner les choses au maximum. Il y a une dynamique maintenant, car depuis quelques mois, nous avons pu parvenir à un accord. Nous avons pris des dispositions pour la cyberdéfense et pour la coopération opérationnelle en mer Égée. Ces deux accords que nous avons pu conclure ces derniers mois, en fait, représentent davantage d'accords que ceux que nous avons pu conclure au cours des 13 années passées. Nous avançons, nous voulons qu'il y ait davantage de progrès, d'avancées. Ça peut être relié à notre coopération non seulement en mer Égée, mais en Méditerranée. Et nous prévoyons une déclaration de la direction de l'Union européenne et de ma part au sommet de Varsovie afin de pouvoir manifester notre soutien politique à l'égard de la coopération renforcée entre l'Union et l'OTAN.
Merci beaucoup. J'espère que je vous verrai tous au sommet de Varsovie en juillet.